Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ensemble sur l'autre radio et c'est l'heure de l'émission L'Instant Jeune. Comme son nom l'indique, ce programme est destiné aux jeunes, à les faire parler et à les informer. J'espère que cette émission vous trouve en forme, que vous soyez dans votre voiture, sur votre canapé ou affairé ici et là. Vous allez peut-être aujourd'hui reconnaître la douce voix de Bettina, qui est volontaire en service civique à la Ligue de l'Enseignement. Bonjour Bettina.
Bonjour.
Nous accueillons également Fanny, qui est volontaire grecque à la Maison de l'Europe en Mayenne. Calimera, Fanny.
Bonjour, Calimera.
C'est un honneur d'avoir une Fanny à cette table un début janvier, puisque il y a peu, c'était l'épiphanie. Alors, bonne fête.
Ah ouais, merci beaucoup. Ouais, c'était hier, ouais.
Si vous n'entendez de nouveau que des voix féminines au micro lors de cette émission, la mixité est bel et bien de mise puisque c'est Anthony qui est à la technique comme à l'accoutumée. Bonjour Anthony. Comme chaque année, c'est l'heure des bons vœux. Donc bonne année à toutes et à tous avant de commencer. Donc je vous souhaite à celles et ceux qui nous écoutent en studio, en direct ou en podcast, une belle année, d'exaucer vos rêves, de vivre de grands et de petits bonheurs au quotidien, de vous plonger dans ce qui vous anime. En 2022, j'espère que vous saurez vous entourer des personnes qui vous inspirent, qui vous sont chères et consacrer du temps à vos passions. En gros, faites-vous un rempart de bonnes ondes. Et moi, je pense que ça serait ça, mes bonnes résolutions, me faire un cocon de bienveillance et de positivité. Et du côté des jeunes, ça dit quoi ?
Chaque mois, on décide d'interroger, à la manière d'un micro-trottoir virtuel, les jeunes sur les réseaux sociaux. Ce mois-ci, on s'interroge sur les résolutions.
Alors les résolutions, pour moi, ce serait plutôt quelque chose du sens de la motivation, du bon état d'esprit en ce début d'année. C'est quelque chose qu'on prend en fait chaque année, peut-être pour marquer un peu le coup, j'imagine. C'est peut-être aussi une manière pour tout le monde de se déculpabiliser, entre guillemets, de l'année passée et de se dire qu'on va faire mieux, qu'on va faire encore plus, qu'on est capable de plus aussi. C'est peut-être pour se donner un peu de courage, je pense. Donc, ça peut faire beaucoup de bien de se donner des bonnes résolutions.
En fait, quand une année se renouvelle, je sais que j'ai mes résolutions. Et en fait, ça me permet d'y réfléchir, d'essayer de me projeter, de savoir ce qui serait le meilleur pour moi.
Alors moi, je prends pas de résolution tous les débuts d'année. Je pense que c'est plutôt quelque chose qu'on dit par tradition, mais qu'on ne fait jamais. Donc je ne m'en donne pas et je me donne des objectifs tout au long de l'année, pas spécialement au 1er janvier.
Personnellement, je pense que les résolutions, enfin, en tout cas moi je vois ça comme ça, c'est un peu comme des objectifs qu'on se donne à faire dans l'année. Généralement, ce que j'aime faire, c'est au début de l'année, et même tout au long de l'année, suivant mes envies, me rajouter des petits objectifs, des choses que j'ai envie de faire dans l'année, mais qui sont pas insurmontables, qui sont réalisables, parce que je trouve qu'il y a aussi une satisfaction à cocher des cases et à voir qu'on a réussi à résoudre certaines de nos résolutions.
Je n'ai pas de résolution, mais je ne suis pas contre parce que ça permet de prendre du recul. Et après, au cours de l'année, je vais me dire, j'ai envie de faire ça pour mieux faire que l'année dernière. Mais je ne vais pas m'obliger à avoir des résolutions et à le dire à tout le monde parce que c'est ma vie, quoi.
Je trouve que cette tradition est un peu ancienne, on va dire. Enfin, je ne vais pas attendre spécialement la nouvelle année pour me lancer dans quelque chose, surtout qu'en général, quand on se dit je vais prendre une bonne résolution pour cette année, je trouve que ça nous met un peu la pression, on se sent un peu obligé de le faire parce qu'évidemment on en parle à tout le monde.
Certains d'entre vous nous ont aussi partagé leurs résolutions ou ce qu'ils aimeraient changer, en tout cas en 2022. Voici quelques réponses.
Qu'il n'y a plus le Covid.
Ouais. Et toi ?
Avoir des meilleures notes.
Partir en vacances.
Ouais, arrêtez de fumer.
Que le Covid s'arrange, toujours pareil.
Me lire un livre dans l'année, parce que j'ai un peu de mal à finir des bouquins.
Avoir mon diplôme.
Ouais.
arrêter de fumer.
C'est d'apprendre à être autonome avec mon budget.
J'aimerais accroître mon activité sur mon compte Instagram professionnel. Je souhaiterais prendre plus de temps pour moi et j'aimerais beaucoup apprendre à dire non quand j'ai pas envie de faire quelque chose. Je souhaiterais aussi intégrer du coup une routine sportive et manger beaucoup plus équilibré.
Il peut se passer plein de choses, alors profiter de la vie.
Contempler, parce que j'aime bien avoir du recul sur un instant et me dire que là je profite vraiment d'un moment dont je vais me rappeler et j'ai envie de faire ça plus souvent.
Merci Bettina pour ce travail. Et de ton côté, par hasard, ça dit quoi au sujet des bonnes résolutions ?
Je pense que j'ai pas trop de résolutions cette année, à part m'épanouir. Enfin, mais c'est un objectif quotidien de toute façon.
Et t'en penses quoi, enfin, que de cette tradition de profiter du 1er janvier pour se donner des objectifs plutôt... plutôt ouais, une tradition qui perd de sa valeur ou quelque chose qui est sympa à maintenir ?
Je suis un peu partagée entre les avis, pareil que ce qu'ils ont dit dans le micro-trottoir. D'un côté, c'est un peu vieillot et j'ai un peu l'impression que de toute façon, on ne le fait jamais. Au final, les résolutions qu'on essaie de tenir, ça ne marche pas. Et d'un autre côté, j'aime bien l'idée que c'est aussi un moment donné où chacun se pose pour prendre du recul et se projeter dans l'avenir.
Et toi, Fanny, est-ce que tu as des bonnes résolutions à nous partager ?
Une bonne résolution pour moi serait de pratiquer mon français de plus en plus. En étant une fille grecque qui fait son volontariat ici en France, je crois que ce serait bon parce que c'est une bonne manière de profiter de mon temps ici. Notre résolution serait de ne pas utiliser le sac plastique quand je vais au supermarché parce que c'est vrai que je l'ai fait beaucoup de fois. Et notre résolution en général serait de profiter de la vie parce que à cause de Covid a dérangé notre vie. Alors, ça serait une bonne excuse pour changer nous-mêmes et profiter de toutes les choses au quotidien.
Oui, j'imagine que toi, profiter, ça doit être un leitmotiv pour cette année, car le temps passe vite et il y a du bon temps à passer ici en volontariat avec les autres, j'imagine.
Oui, c'est vrai, je dois l'avouer que je pense de bon temps avec les autres. Ici à Laval, et à la résidence où j'habite aussi, oui, il y a toujours beaucoup d'activités à faire.
Et zéro déchet, oui, c'est vrai, j'y avais pas pensé, mais c'est clair qu'on peut toujours faire plus et pourquoi pas profiter de cette année 2022. On peut souligner aussi que ces interviews présentées là comme un micro-trottoir sont en fait des micro-insta. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Bettina, au sujet de la récolte de ces enregistrements ?
Oui. Déjà, l'idée à la base, c'était de faire des micro-trottoirs réels, donc aller dans les rues de Laval et interroger des jeunes. Et en fait, on s'est vite rendu compte que les jeunes n'étaient pas forcément à l'aise de répondre à un micro-trottoir en face à face. Et on s'est posé la question de où est-ce qu'ils aiment s'exprimer, où est-ce qu'ils veulent s'exprimer, parce que si on veut les faire parler, autant utiliser les supports qu'ils convoitent eux-mêmes, enfin, qu'ils utilisent au quotidien en tout cas. Et donc, on est parti sur Instagram. Et alors, la récolte se fait simplement, on poste une petite story où on pose une question et après, ils nous répondent en message privé avec un vocal.
C'est judicieux, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, je trouve que c'est une idée extra. On ne va pas assez souvent chercher les jeunes sur les médias qu'ils maîtrisent et du coup, finalement, on peut les mettre en difficulté alors que on voit bien sur les vocaux Insta, ils sont à l'aise et y a la possibilité de communiquer assez aisément. Ce n'est pas une résolution, mais ça débute en janvier aussi. Pour les personnes qui souhaitent accéder à une première année d'enseignement supérieur, d'après vous, de quoi je parle ? C'est Parcoursup. Mais avant, Lucie et Leïla nous ont proposé une chronique sur le stress des examens. On reste toujours dans cette actualité pour les jeunes qui sont en terminale un début janvier. Voilà, c'est dans cet état d'esprit qu'ils et elles sont actuellement. Les examens, Parcoursup, bon courage à tous les terminales qui nous écoutent, parce que effectivement le marathon commence là en ce début d'année. On écoute Lucie, elle est là.
En ce début de nouvelle année, pour certains, on se rapproche des périodes d'examen et étant étudiante, on sait que le stress, c'est un gros problème qui touche beaucoup d'entre nous. Alors c'est pourquoi nous aimerions vous partager quelques astuces pour mieux gérer son stress et pour ne pas se laisser submerger.
Tu es à la veille d'un examen important et ton stress ne cesse d'accroître. La pression devient insoutenable. Manque de confiance en toi, peur de l'échec, sensation de ne pas avoir suffisamment révisé. Les excuses s'accumulent. Mais comment maîtriser cette angoisse et lâcher prise ?
Déjà, le stress, c'est un ensemble de réactions physiques et psychologiques de l'organisme face à une situation particulière, que l'on dit stressante, et qui provoque une situation de tension nerveuse excessive. Le stress avant un examen nous fait perdre tous nos moyens, notamment le jour J, mais aussi avant. Nos mains tremblent, nos jambes flageolent, nous suons et nous avons du mal à déglutir. Nous avons tous connu ça, voire pire, tout oublié. Et pourtant, il suffit de peu de choses pour déstresser. Ne t'en fais pas, il existe de nombreuses solutions pour t'aider à te contrôler.
Le stress est normal en période d'examen, mais il ne doit surtout pas envahir tes pensées au point de te paralyser. Pour le combattre, chacun sa technique. Certains, c'est le sport. C'est d'ailleurs un très bon moyen d'évacuer le stress. Fais ce que tu aimes pour penser à autre chose. Footing, tennis, danse, peu importe. Alors ne te prive pas. Mais au contraire, d'autres préfèrent se détendre. Écouter de la musique, faire de la relaxation ou de la méditation. Boire une tisane anti-stress. D'ailleurs, la camomille, le thé vert ou la passiflore sont de très bons déstressants.
Mais le point essentiel est de bien manger et surtout de bien dormir. Parce que rien ne vaut une bonne nuit de sommeil. La fatigue est l'ennemi de la mémoire et de la concentration. Un petit conseil pour les fumeurs. La cigarette, contrairement à ce que l'on peut penser, est un facteur de stress. Car elle accélère la fréquence cardiaque et amène à tout sauf à un état paisible.
C'est normal d'être stressé. Le stress, c'est pas forcément mauvais. Il y a aussi le bon stress qui te pousse à donner le meilleur de toi-même. Il faut plus voir les examens comme un défi et non un obstacle ou un événement fatidique. Cela aide à relativiser. Et souvenez-vous, rien ne vous emprisonne excepté vos pensées et rien ne vous limite excepté vos peurs. Marianne Williamson.
Merci à Lucie et Leïla pour ce partage de bons plans pour gérer son stress. Il faut savoir que les filles ont préparé cette chronique et quelques petites interventions dans l'émission quelques semaines plus tôt, bénévolement, lors d'un atelier qu'on a préparé ensemble. Donc, merci à votre participation. C'est toujours agréable d'entendre des chroniques de jeunes. Et vous, le stress des examens, c'est quelque chose que vous avez vécu ? Comment vous gériez la tension qui montait, les sueurs, la difficulté à respirer ? Est-ce que ça vous est arrivé ?
Alors moi, en tout cas, oui, énormément. J'ai eu des grosses périodes de stress à chaque fois pour les examens. Notamment que ça peut paraître un peu ridicule, parce que le brevet, c'est que le brevet. Mais le brevet, je me souviens que j'étais très très stressée. Et le bac également, mais en fait j'avais développé une technique qui était de me raccrocher à l'instant présent. Et en fait je me décrivais dans la tête tout ce que j'allais faire. Donc en fait c'était tout bête, monter les escaliers, passer la porte, m'asseoir à la table, commencer à écrire mon nom. Enfin voilà, je faisais un peu ça quoi.
Ouais, ça permet de dédramatiser et que finalement ça va pas être une montagne, que tu l'as peut-être fait plein d'autres fois. Sauf que là c'est un cadre différent, c'est les examens, mais effectivement si on décrit toutes nos étapes, on se rend compte que c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire et il suffit juste de le refaire. Ouais. Et puis bah, le brevet, d'un côté, c'est aujourd'hui, on se dit que c'était rien. Mais en soi, à l'époque, quand on a quel âge ? 14 ans, bah, c'est vraiment l'examen à hauteur de nos 14 ans. Quoi. Donc, ouais, c'était stressant quand même. Et toi, Fanny, stressée pendant les examens, les examens ?
Oui, j'étais toujours stressée, mais je pouvais les contrôler. Ça ne constituait pas un grand problème pour moi.
Ah, mais le stress existe toujours, je crois, pour tous les élèves, la majorité des élèves. Oui.
Oui, comme le dit Lucie, ça, c'est un boost aussi, le stress. De stresser, ça fait pas toujours perdre ses moyens, finalement. Ça permet de donner de l'énergie pour passer les épreuves. Et du coup, tu disais que tu réussissais à contrôler ton stress. Comment tu faisais?
En parlant avec les amis et à mes parents, je crois que parler avec les autres personnes, c'est une bonne solution et pour les contrôler et pour décompresser. Ouais.
Extérioriser, sortir un peu les inquiétudes qu'on a qui tournent en rond dans notre tête, les sortir par... par la bouche, effectivement, ça aide. Eh bien, merci pour vos partages. On espère que cette année sera du coup la réussite, verra la réussite dans vos examens à tous les jeunes qui nous écoutent. Passons à notre parcours sup. C'est quelque chose qui peut vous concerner, quel que soit votre âge. Que vous soyez en terminale, déjà bachelier ou bachelière, ou adulte en reconversion professionnelle ou en reprise d'études, c'est sur Parcoursup que vous devez aller. L'ancienne plateforme admission post-bac, peut-être que vous vous en rappelez, APB, c'est les vœux de Parcoursup, en fait, ne sont pas comme cette ancienne plateforme. Ils ne sont pas classés par ordre de priorité. Certains et certaines se souviennent peut-être du stress que c'était d'ailleurs de classer tous ces vœux, même s'il n'y avait pas une limite de vœux. Parcoursup, c'est 10 vœux d'orientation maximum, dont des vœux groupés. Mais oui, c'est vrai qu'admission post-bac, le classement, c'était quelque chose. Et à la différence d'admission post-bac, également, Parcoursup supprime le tirage au sort et la hiérarchisation des vœux. Donc, c'est censé être une plateforme facilitatrice. Vous pouvez, avant même l'ouverture de la plateforme, vous faire une idée des formations présentes en allant dans la rubrique « Les formations » sur le site Parcoursup. Ça, c'est possible depuis le 21 décembre. Donc, actuellement, c'est ce que vous pouvez faire. Je vous conseille même de vous informer dès maintenant afin de définir votre projet d'orientation. Ça peut faire peur des fois, en fait, de parler de projet d'orientation, toujours avoir ce projet, s'orienter. Mais ne vous inquiétez pas, je vous assure qu'il existe plusieurs structures qui peuvent tranquillement, mais efficacement, vous aider dans vos recherches. Si ça peut faire tomber ce stress-là, n'hésitez pas à pousser la porte. Ça peut faire retomber la tension. Au hasard, je pense aux infos jeunes. Donc rappelez-vous que vous pouvez trouver de la documentation actualisée, riche, détaillée, ainsi qu'un accompagnement personnalisé à Laval, à Saint-Berthevin, à Mélay-du-Maine, à Évron, Mayenne ou Goron. Moi, je me trouve à l'InfoJeune de Mayenne Communauté. Donc, quelles que soient les caractéristiques des formations qui vous intéressent, je peux vous informer comment se déroule la procédure. Je peux également voir ça avec vous, que vous soyez ou non avec vos parents. Et là, vous me dites peut-être, mais Parcoursup, du coup, ça démarre quand? Eh bien, c'est à partir du 20 janvier 2022. Donc, vous pouvez vous inscrire et créer votre dossier candidat à partir de cette date. Vous avez jusqu'au 29 mars, minuit, pour ajouter jusqu'à 10 vœux et 10 vœux supplémentaires pour les formations en apprentissage. Pour chaque vœu, vous devez dire en quelques lignes ce qui vous motive dans ce choix. Pour certaines formations, vous pourrez également formuler des sous-vœux. C'est le cas notamment pour les BTS, les BUT, les classes préparatoires, les écoles de commerce ou d'ingénieurs, les IFSI, etc. Mais ce n'est pas fini. La date limite pour compléter et confirmer chacun de vos vœux, c'est le 7 avril, également minuit. Une seule exception, pour les personnes qui font une formation en apprentissage, vous pourrez formuler vos vœux pour ce type de formation tout au long de la procédure. L'ensemble de vos dossiers est ensuite transmis aux formations qui examineront vos candidatures. Et là, vous vous dites peut-être, et à partir de quand je reçois mes réponses? Eh bien, c'est à partir du 2 juin que commence la partie d'admission. et aussi des beaux jours. On ne parle pas des beaux jours aussi en juin, mince. On ne va pas stresser que pour sa partie d'admission. On peut aussi profiter des beaux jours. On va en avoir besoin. Donc, au fur et à mesure, vous allez recevoir des réponses à vos formations et pour chacun de vos vœux. C'est à ce moment qu'il vous sera demandé d'y répondre dans le délai indiqué. Donc, c'est là qu'il y a la petite partie choix dans la procédure Parcoursup. Cette phase peut être riche en émotions et paraître longue parce que ça peut prendre du temps pour avoir des réponses. Mais pas de panique. Vous allez accepter une proposition d'admission tout en gardant des formations qui vous intéressent et pour lesquelles vous êtes potentiellement sur liste d'attente. Vous pouvez aussi renoncer aux formations qui ne vous intéressent plus. Genre, par exemple, si vous rendez compte, là, d'un coup, que c'est beaucoup plus intéressant de finalement étudier en Mayenne que dans le Grand Ouest, sur la côte Ouest. Cette phase d'admission, elle se termine le 15 juillet. Donc, j'espère que vous suivez le rythme, Bettina et Fanny. Sinon, vous pourrez me poser des questions. Je pense que ça sera peut-être les mêmes que les auditeurs et auditrices. Et si vous êtes en voiture, franchement, arrêtez-vous parce que conduire et suivre la procédure admission en même temps, je pense que c'est difficile. Non. Donc, en soi, les personnes inscrites en terminale cette année, elles doivent plutôt bien suivre ce que je suis en train de dire, puisque déjà, d'une, ça les concerne. Et en plus, les professeurs ont déjà commencé à transmettre le message dans les classes. C'est aussi des personnes ressources que vous pouvez bien sûr interroger. Et là, les plus stressés ou défaitistes d'entre vous se disent peut-être « Mais si j'ai pas de proposition d'admission, je fais quoi ?» Eh ben, bon courage. Mais non, de juin à septembre, en fait, vous pouvez demander à être accompagné lors de la phase complémentaire pour trouver une formation proposée sur Parcoursup. Dès le 2 juin, en fait, vous pouvez prendre contact avec votre lycée via vos professeurs principaux. J'ai bien dit que c'était des personnes ressources. Et aussi auprès des psychologues de l'éducation nationale, donc via les CIO et également les infojeunes. Donc ce sont les CIO et les infojeunes peuvent vous accompagner dès maintenant et jusqu'à la fin de la procédure Parcoursup dans vos choix d'orientation. Du 23 au 16 septembre, la phase complémentaire ouvre. Donc c'est à ce moment-là que vous pourrez formuler de nouveau des vœux pour les formations qui ont encore des places disponibles et obtenir, cette fois peut-être, des propositions d'admission. Je crois que c'est à peu près fini. J'espère que vous avez bien compris. Donc sinon, n'hésitez pas à pousser la porte des structures que j'ai citées. Vraiment, si vous êtes stressé par rapport à ça, ça peut être un bon moyen de faire retomber l'attention et même celle de vos parents, parce que peut-être même que ce sont vos parents qui sont les plus stressés, et ça se comprend, c'est un gros enjeu. Mais voilà, n'hésitez pas à vous orienter auprès de professionnels. L'orientation, c'est quelque chose comme une autre dans la vie, et ça passe ou ça casse, à vrai dire, ça passe toujours, ça peut juste prendre plus ou moins de temps. Est-ce que vous avez des questions, les filles, sur ce que j'ai pu expliquer ?
Ouais, moi j'ai peut-être une question. C'est simplement, tu parlais des sous-vœux, notamment pour les BTS, les BUT et tout ça. C'est quoi un sous-vœu, du coup ? À quoi ça correspond ?
Eh bien, il s'agit notamment des lieux dans lesquels on peut faire son BUT, par exemple. Si je veux faire un BUT Infocom, eh bien ça va être mon vœu principal, mais dans les 10 sous-vœux, je vais pouvoir choisir celui, admettons, je dis au hasard, hein, de Lorient, d'Alençon, d'Angers. Donc je vais pouvoir candidater dans plusieurs BUT le même, mais dans différentes villes en France. Oui, parce que bon, ça serait juste, en fait, 10 vœux s'il fallait choisir en même temps différentes villes étudiantes et en même temps différentes filières, enfin possibilités de formation. Mais sinon, si vous n'avez pas d'admission dans une formation, pas de panique, en fait. Il n'y a pas que les études en formation initiale. Il y a aussi la possibilité de faire la même chose que Bettina ou Fanny, un volontariat. Mais ça, on en parle avec Fanny après la pause. et on écoute sa proposition. Qu'est-ce que c'est, Fanny, que tu nous as proposé?
C'est une chanson grecque, Synavlia. Ça signifie concert en français. Ouais, ça parle ouais des quand j'étais jeune, j'ai voyagé à l'Europe, à l'Amérique, à la Grèce. Alors ouais.
Ça fait écho à ce que tu vis en ce moment. Et on écoute ça alors.
Suena el cigarro, la estación ha parado, y si tirio, dibla esta zevalla, la de cauchtaria, ti misterio, y die mi jala, ojos mi afora. Δεν υπάρχει άλλο τι να βγάλω πιο διάζωμα να είμαι εγώ με σένα κι όλα ανεβασμένα παιδωμάζωμα. Θέλω να σου το πω πόσο σ' αγαπά. Να με κρατάς όπως τα κοιτάς. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Ό,τι αγαπούσα τα αποθέωνα, αρκεί να ήσουν. Απ' το πλάι και έλεγα γελάει και σήμερα τα άγρια ξεγελάει που ήρθανε να διώξουν τα ημέρα. Θέλω να σ' το πω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ και θα σ' το χρωστάω. Ό,τι μου ζητάς είναι έρωτας. Εγώ στα νιάτα μου ξημέρωνα, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Ό,τι αγαπούσα τα αποθέωνα, αρκεί να ήσουν.
Merci Fanny pour cette proposition musicale. Les filles qui ont travaillé avec moi en décembre, Lucie, Leïla et Lina, ont proposé quelques questions à te poser aujourd'hui. Alors, je me fais relais pour elle. Déjà, comment tu t'es sentie accueillie à ton arrivée en France? Je rappelle que Fanny, tu es volontaire grecque à la Maison de l'Europe en Mayenne. Et tu es ici depuis octobre jusqu'à fin juillet. Donc, comment tu t'es sentie accueillie en France à ton arrivée en octobre?
J'étais très excitée, très excitée. Et quand je suis arrivée à Laval, c'était Mathilde, ma tutrice, et qui m'a pris de la gare. Elle est venue avec son mari parce que j'ai pris cette valise avec moi de la Grèce et c'était difficile de les apporter. Alors, c'était une bonne solution, une bonne proposition d'elle de venir et m'aider. Et alors, il n'y avait pas de moment que j'étais seule, toute seule. Il y a toujours une organisation derrière. C'est-à-dire, je dois avouer que Mathilde est toujours proche de nous. Et le premier jour, elle nous a pris au supermarché pour faire des courses, pour préparer, pour préparer ses, pour être préparé en général. Oui. Ouais. C'était un bon accueil. Ouais.
Oui, je rappelle que Mathilde, on l'a entendue dans l'émission d'octobre, donc n'hésitez pas à la retrouver en podcast sur le site de l'Autre Radio. Mathilde travaille à la Maison de l'Europe et effectivement, c'est elle qui est en charge d'accueillir, de coordonner en tout cas l'accueil des volontaires européens, européennes en France. Et en Mayenne même. Et c'est elle, si vous souhaitez partir en corps européen de solidarité à votre tour, c'est auprès d'elle qu'il faudra vous adresser si vous êtes mayennais ou mayennaise, puisque c'est elle qui est en charge de l'accompagnement des mayennais mayennaises qui souhaitent partir en corps européen de solidarité. Et oui, les courses, ça doit être une grosse étape parce que finalement, quand on débarque dans un pays dont on ne connaît pas les habitudes alimentaires, ni les marques, ni les prix, ça doit être un sacré casse-tête pour commencer.
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
Et donc, tu as parlé donc de ton organisme d'accueil, qui est la Maison de l'Europe, et de la présence bienveillante de Mathilde au quotidien. Mais tu as aussi une structure d'envoi. Avec quel organisme tu es partie?
C'était USB, United Societies of Balkans. C'est situé en Grèce et plus précisément à Thessalonique, qui est la ville où j'habite en Grèce. C'est une organisation d'envoi. C'est-à-dire que je devais contacter cette organisation pour être ici. Ah ouais, c'est ça.
Et où est-ce que tu résides là en France? Tu as parlé de la résidence tout à l'heure quand tu parlais de tes résolutions de profiter avec tes amis en France à la résidence. Alors oui. Dis-nous en plus.
J'habite à Laval, à la résidence Pierre de Coubertin. Il s'agit de la résidence avec les personnes internationales et les jeunes entre, je crois, 16 jusqu'à 30 ans.
Tout à fait.
Oui. C'est très cool parce que j'ai déjà fait beaucoup de rencontres avec les autres personnes issues d'autres pays qui ont les mentalités et les cultures différentes. Et c'est une chose unique. En ce qui concerne la résidence, la résidence organise toutes les soirées, beaucoup d'activités, des activités variées. Par exemple, soirée karaoké, karting, film soirée ou soirée où on cuisine tous ensemble. Alors, c'est un bon intro pour passer ta jeunesse ou ton temps. Ouais.
Ouais, donc un endroit chaleureux et agréable quand on arrive de l'étranger et qu'on connaît personne et qu'on a besoin de rencontrer des jeunes de son âge. Ouais, c'est effectivement toutes ces activités, je pense que ça permet de créer des liens assez facilement. Tu parlais de soirée cuisine et c'était une question que les filles voulaient te poser. Qu'est-ce que tu penses de la gastronomie française? Est-ce qu'elle tient ses promesses?
Oui, je crois que oui. Et c'est un peu différent en comparaison avec la Grèce, mais j'aime les croissants français, les crêpes français. Ouais, ils sont les choses très typiques de la France, mais c'est vrai. Ouais, les gâteaux aussi sont pas trop sucrés qu'on fait en Grèce. Mais c'est mieux, je crois, parce que tu ne peux pas te sentir repu. Alors, ouais, c'est. J'ai goûté aussi le fromage. Ouais, c'est le goût, c'est un peu différent, mais c'est bon. C'est bon dans le plan. Ouais.
Et surtout dans les plats d'hiver, oui, le fromage. Mais alors du coup, est-ce que Mathilde insistait beaucoup pour que tu achètes un camembert? Est-ce que ça y est, c'est fait?
Oui, c'était bizarre parce que l'odeur était très forte, très forte. Alors c'était la première fois que j'avais essayé odeur d'un fromage. Mais ouais, toutes les cultures sont différentes, sont de la gastronomie différente. Mais je crois que si tu les mets au four, c'est mieux quand tu cuisines le fromage. Parce qu'en Grèce, on ne cuisine pas le fromage. Alors, ouais. C'est aussi une grande différence, peut-être.
Ouais. Oui, c'est vrai que ça passe toujours par une expérience culinaire, les voyages. C'est intéressant d'en discuter. C'est toujours un peu drôle de parler de nos expériences culinaires.
Oui, c'est vrai.
Et alors, passons aussi à la météo. Les filles se questionnaient sur est-ce que ça va le temps mayennais par rapport à celui de la Grèce.
Je suis pas très familiarisée avec ce temps parce qu'en Grèce j'étais habituée de soleil, alors ici il y a toujours des nuages et pas de soleil. Alors le soleil me manque beaucoup, et quand il y a un jour avec du soleil, je veux de profiter bien, parce que je sais que c'est seulement un jour, deux jours par mois. Ouais, alors ouais, c'est très triste parce que le temps, c'est vrai que le temps influence ton psychologie, ton ouais, c'est vrai.
Là, c'est une transition pour ensuite aller visiter Giada en Lituanie, parce que je pense que c'est que c'est un bon milieu. Et alors, revenons un peu au but de ton volontariat. Même si le but du volontariat, c'est d'expérimenter un nouveau pays, une nouvelle culture, rencontrer de nouvelles personnes. Mais qu'est-ce que tu fais aussi de tes journées de tes semaines?
Alors, j'ai travaillé à la Maison de l'Europe et c'est une organisation non lucrative à Laval. Ouais, c'est situé à Laval. En général, je suis au bureau pour préparer les choses variées. Par exemple, je vais à l'école pour faire les activités, les animations avec les enfants pour présenter, promouvoir les valeurs européennes. Pour faire les jeux avec les enfants sur la Grèce, sur l'Europe, sur l'Union européenne. Je fais les présentations au lycée sur l'Union européenne ou en général pour informer les gens sur les opportunités qui cette organisation offre aux jeunes. Je crois qu'il s'agit d'un travail, d'un volontariat très intéressant parce que c'est pas que je suis seulement au bureau et je fais les choses là, mais je fais aussi les activités, les présentations. Et qui j'aime parce que elles sont très interactives.
Et tout ça se déroule en français, j'imagine. Alors toi, comment tu as commencé à parler français et actuellement tu parles bien français. Donc est-ce que tu peux nous parler un peu de la pratique de la langue avant ton arrivée et maintenant?
Alors il y a 2 ans, j'ai commencé à apprendre le français. C'était la chose en Grèce, c'est que les personnes n'apprennent pas une langue étrangère dans l'école, mais dans les centres privés de langues étrangères. Alors, j'ai pris les cours dans un centre de langues étrangères, plus précisément le français. Et au début, c'était difficile parce que la prononciation est un peu différente. Je crois que c'est une chose dont je suis habituée maintenant parce que c'était aussi la langue était aussi un but d'entendre parce que quand j'ai postulé pour COS et j'ai postulé seulement en France. Alors, je voulais pratiquer mon français. C'est pourquoi j'ai choisi la France pour faire les volontariats.
Et c'est ce que tu fais, donc. Et qu'est-ce qui t'a le plus plu pour l'instant en France? Et est-ce que tu as une anecdote à raconter?
Ah, j'ai beaucoup d'anecdotes. J'aime les relations que j'ai développées ici, les liens que j'ai tissés avec les personnes de la résidence et les autres volontaires. C'est une chose très importante parce que quand tu pars à l'étranger, c'est difficile d'être seul ou de te sentir seul. Alors, j'ai une histoire drôle pour raconter.
Je crois que je sais à quoi tu penses.
Vas-y. Samedi, on a fait une promenade à Changé et à côté de la rivière. Et un garçon est tombé dans la moyenne, dans la rivière. Et c'était drôle, mais dans le même temps, c'était un peu tragique. Oui, mais ouais, c'est... il s'agit d'une expérience que serait difficile d'oublier.
Je rappelle, c'était un ami à vous, c'est ça, qui a un peu cherché le danger.
Oh. Donc,
ce n'était pas un passant qui est tombé de sous vos yeux.
Ouais, ouais, ouais.
Je mets le contexte un peu pour les auditrices et auditeurs. Oui, Jiada m'a raconté que ça a été assez amusant.
Oui, oui, oui.
Pour terminer, je pense que c'est quelque chose que beaucoup se posent. Est-ce que c'est pas trop dur de quitter sa famille? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de relations qui t'apportent en France, mais est-ce qu'il y a du manque aussi? Et comment t'as pu gérer ça, le manque avec la famille?
C'est pas la première fois que je quitte ma famille. C'est-à-dire, il y a 4 ans, j'ai fait un Erasmus à Prague et c'est beaucoup de fois que je suis partie à l'étranger. Alors, ma famille est habituée, je suis habituée aussi de faire ça. Mais au début, c'est difficile de dire à tout à l'heure mais. Quand tu ne sens pas toute seule, sais que tu vas trouver les personnes ici, c'est différent, c'est différent. Mais la famille toujours nous manque, mais c'est une chose dont nous devrions être habitués.
Et puis oui, quand on t'entend, on voit que bon, il y a un manque, mais il y a un apport à côté, et ça peut s'équilibrer. Et puis tu n'es pas ici pour l'éternité. Tu vas aussi revenir chez toi dans quelques mois. Et donc tu nous as parlé de du fait que cette expérience peut te permettre de rencontrer des nouvelles personnes, découvrir une nouvelle culture, surtout aussi un de tes objectifs, apprendre le français. Et est-ce que tu as des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait partir et qui n'ose pas sauter le pas?
Je crois que toutes les personnes au début peuvent avoir peur de partir à l'étranger, mais je crois que c'est bon quand tu surpasses ces peurs, parce qu'il s'agit d'une expérience inoubliable dont toutes les personnes doivent profiter. Pas toutes les personnes ont la chance d'être à l'étranger en sortant avec les personnes issues des pays différents. Pas toutes les personnes ont la possibilité de pratiquer une langue étrangère en étant dans le pays d'accueil. C'est très important parce que cette expérience et nous fait plus ouverte, plus tolérante aussi. Et on a la possibilité d'élargir nos horizons et d'enrichir nos connaissances en général. C'est vrai.
Merci Fanny.
Et merci à vous aussi.
Et maintenant, écoutons d'autres jeunes engagés près d'ici.
Pour cette partie de l'émission où nous faisons parler des jeunes, ceux qui s'engagent, ceux qui montent des projets sur le département de la Mayenne, nous avons contacté l'AV Junior, une junior association de Villaine-la-Juhel dans la communauté de communes du Mont des Avaloirs. C'est Eva Le Pelletier, secrétaire de l'association, qui nous répond. Alors Eva, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se cache derrière le nom de votre association, l'AV Junior?
Alors l'AV Junior, ça va être comme ça parce qu'en fait, donc l'AV, AEV, ça représente le A de Avaloir, parce que notre centre, il est, c'est la CMA du Mont des Avaloirs. Le V, ça représente l'avenir, comme en fait le but c'est que on est une association de jeunes qui veulent découvrir des voyages, enfin faire des voyages pour découvrir les pays tout ça, donc c'est dans un but pour, enfin c'est pour notre avenir en fait, c'est que de la culture en soi. Et Junior pour jeunes en fait, tout simplement.
Et ça fait combien de temps du coup que cette association existe?
Depuis 2012, mais je ne suis pas sûre du tout parce que moi je n'y étais pas avant, ça va faire que 2 ans que je suis dedans. En fait, avant le but c'était qu'on s'inscrivait à l'année, donc du coup on crée notre projet, les démarches financières, tout ça pour pouvoir partir en voyage. Et une fois que le voyage était passé, ensuite on avait une rencontre à la fin, enfin à la suite du voyage, et après du coup on sortait de l'association et c'est de nouveaux jeunes qui venaient l'année d'après. Et en fait, depuis l'année dernière, ils ont décidé que si on voulait, on pouvait rester jusqu'à ce qu'on ait 16 ans, il me semble.
Pour rappel, la Junior Association, c'est un dispositif qui permet aux jeunes de moins de 18 ans de créer leur propre association, tout en étant accompagnés par un ou une adulte. Vous, qui est-ce qui vous accompagne, Eva?
Alors du coup, l'adulte qui accompagne ce projet, c'est Antoine Trouvin, du coup, qui est directeur de la CCMA des jeunes du monde des Avalois. Et du coup, il nous accompagne à travers les projets. Du coup, un mercredi par mois, il est avec nous au centre où on est, à Villeneuve la Jeune, du coup. Et donc, il nous aide à avancer avec le projet. Il nous guide sur certains points quand on a besoin. Et sinon, pour le jour J, il est là avec une autre animatrice, c'est Nathalie Renard. Si elle accompagne pour qu'il soit assez pour nous encadrer, en fait.
Et alors, tu disais plutôt que l'objectif était de vous permettre de partir, de voyager à l'étranger pour notamment gagner de la culture. Qu'est-ce que vous faites, du coup, pour réaliser cet objectif?
Alors, on organise des actions financières, comme donc là, à la période de septembre, on a fait la Saint-Nicolas, du coup, qui s'est déroulée à Villeneuve-la-Jeune. C'est un petit marché Noël pour Noël, où il y a des gens qui exposent, tout ça. Donc, nous, on s'était mis dans un abri et on vendait des gâteaux... des chocolats chauds, tout ça, pour du coup financer de l'argent pour l'association. Par exemple, là en décembre, comme il y avait Noël qui arrivait, on s'est dit bah, en novembre, on va aller dans les magasins exposés pour emballer de la cadeau du coup. Et donc, on s'est installé au Super U de Villeneuve-la-Juelle deux samedis et un mardi et un mercredi pendant les vacances du coup de décembre. Donc, du coup, on était là-bas pour emballer de la cadeau et les gens y mettaient à leur propre. Ce qu'ils voulaient en fait, c'était s'ils voulaient mettre un petit pourboire, c'était sympa pour nous en fait. Et là, on organise sinon un loto. Donc, si je me rappelle bien de la date, ça sera le samedi soir vers 19h le 26 février, du coup, à la salle Advent.
Donc, c'est une association dont les actions se réalisent principalement sur votre commune. Quelle est votre relation avec les habitants justement?
Bah, comme ça fait plusieurs années qu'elle existe, les gens ils nous repèrent et ils voient qui on est. Moi je trouve ça vraiment sympa parce que les gens ils sont vachement ouverts d'esprit et ils sont vachement accueillants avec nous, donc ils nous posent certaines questions sur le projet et ils s'intéressent à ce qu'on veut faire en fait. Donc après il y a plusieurs relations, mais franchement on en a discuté entre nous avec les membres, on trouve ça vachement génial que les gens ils soient ouverts d'esprit et qu'ils discutent vachement avec nous là-dessus et eux ça leur fait un plaisir, enfin de... Ils sont un peu fiers d'avoir une association dans leur village qui bouge vachement et qui font des actions pour pouvoir faire profiter les jeunes, en fait.
Et pourquoi as-tu décidé de t'engager dans l'association?
Alors moi, je voulais être secrétaire parce que j'aime bien diriger tout ce qui est les finances, dire un peu ce qu'il faudrait faire pour avancer dans le projet, quels moyens on a pour pouvoir partir, ça aider dans le bureau. Parce que moi, personnellement, au début, j'avais énormément peur. Du coup, j'avais aucune confiance en moi, j'étais vachement timide. Et le fait de rentrer dans l'association, ça te fait rencontrer des gens, des super personnes. Par exemple, moi, j'ai rencontré de super personnes dans l'association que je ne connaissais pas, du coup. Et ça te fait t'ouvrir aux autres aussi.
Et donc, comment décrirais-tu l'expérience que tu vis au sein de l'AV Junior?
Bah, moi, personnellement, je trouve une très belle expérience. Par exemple, le fait de, bah, du coup, de financer des choses, tout ça. Donc, déjà, t'apprends à devenir autonome, à faire les choses de toi-même. Et puis, d'une deuxième part, partir en voyage, c'est quand même une super expérience et une grande chance parce que, enfin, moi, je vois personnellement, je pars pas forcément en voyage avec mes parents ni avec mes amis. Et je vois, il y a des gens dans l'association, des membres, ils ont pas forcément la chance que leurs parents ils puissent les emmener ou de tout simplement pouvoir partir en voyage. Et le fait de découvrir d'autres pays, c'est aussi une culture pour nous, personnelle. Et je pense que c'est vachement bien. Enfin, moi, j'aime trop cet engagement de... Oui, je... personnellement, je prends du temps sur mon temps personnel, faire des plannings, enfin, en parler avec le groupe. Et moi, je trouve que prendre du temps sur mon temps personnel est génial.
Très bien, merci Eva. Est-ce que tu aurais un dernier mot, quelque chose à dire aux gens qui nous écoutent ?
Alors moi, j'aimerais leur dire que c'est une super aventure et qu'il ne faut pas hésiter à y aller, en fait. C'est quelque chose à vivre, enfin, c'est quelque chose de ouf, en fait. Et qu'il ne faut pas que les gens timides ou qu'ils n'osent pas, ils hésitent à venir, en fait, dans cette association. C'est quelque chose de génial à vivre, en fait. Et sinon, j'aimerais remercier, du coup, Antoine Trollon et tous les membres d'être autant impliqués dans ce projet, en fait.
Il est vrai que s'engager n'est pas toujours simple. Il faut d'abord sortir de sa zone de confort. C'est ce que tu disais juste avant, Fanny. En tout cas, ça fait très bien écho avec ton témoignage. Merci, Bettina, pour cette interview très intéressante. On marque une petite pause musicale et on écoute un choix de Lucie. On va écouter Angèle et Damso, Démon.
Enfin ça allait, confiante de peur de rien avant de tomber. On verra bien demain, mais ça plus jamais. J'ai pas l'air de m'en faire, mais si vous saviez comment c'est dans ma tête, ça me fait briller. L'angoisse me fait la guerre et part en fumée. Jour après jour je m'habitue à mes ennemis qui me tuent, et j'apprendrai toutes les vertus. Quand j'en attends trop, je suis déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. Comment faire pour tuer mes démons? Quand maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom.
Angèle, pas de gros mots radio, faut qu'on passe. Au lieu d'un nicta, non, je dirais grand bien leur face. Portefeuille achromate, ne voit que violet, vert, ice. J'suis dans la zone, rageux, me suis par la trace. Comment faire pour tuer les haineux? Juste en parlant plus. Pour rappeur, non, pour moins de buts que j'ai d'albums vendus. Très sincèrement, si je m'en vais, je ne reviendrai plus. Ils ont exploré autre chose, me perdre dans le cosmos. Ils parlèrent dans mon dos couvert de bêtes, mon cher italien. Dans leur derrière, j'ferai un don de quelques futurs homo sapiens. J'suis l'avatar du game et j'mets maîtrise les quatre éléments, je rappe, je chante, je produis, j'écris pour les gens. Je sais comment faire pour tuer tes démons.
Comme maintenant j'en ai fait, j'ai plus mon nom.
De retour sur l'autre radio, c'est l'Instant Jeune, l'émission qui parle des jeunes, qui les informe et surtout qui veut leur laisser la parole. Avant de nous quitter, les filles Lucie, Leïla et Lina souhaitaient vous proposer des bons plans médias, donc surtout des films et des séries. On les écoute, j'espère que ça vous donnera envie.
Alors moi j'aimerais vous parler d'un documentaire que j'ai vu il n'y a pas très longtemps et qui est sorti fin 2021. Donc c'est le documentaire sur Angèle, une artiste belge star de la pop, qui se raconte et évoque le fragile équilibre qu'elle a trouvé entre la solitude et la joie, accompagnant sa notoriété. Elle y raconte ses angoisses, son coming out volé, les difficultés de sa famille face au scandale ou sa nouvelle vie dans la lumière. On en apprend également plus sur les idées et concepts qu'elle a voulu approfondir dans son nouvel album 95, qui est sorti peu après le documentaire. Et j'ai adoré ces 90 minutes, dans lesquelles on découvre un peu plus la femme qu'elle est et qu'elle est devenue. C'est un documentaire sincère et bouleversant qui m'a émue, et je vous conseille vraiment d'aller le regarder.
Je vais parler du film Lion, qui est un film américo-britannico-australien qui est inspiré de faits réels et du livre « Je voulais trouver ma mère » de Sao Birley. Il a eu 6 nominations aux Oscars, dont le meilleur film. C'est l'histoire d'un petit garçon nommé Saro, de 5 ans, qui se trouve dans un train traversant l'Inde. Il sera obligé de survivre seul dans une immense ville de Calcutta. Et je vous laisse regarder le film pour savoir la suite de l'histoire et sortir vos mouchoirs. En tout cas, j'ai adoré ce film qui est très touchant et qui m'a bien fait pleurer, mais c'est une très belle leçon sur la vie. Un film bouleversant et à regarder absolument.
J'ai regardé là très récemment la mini-série Made qui est dispo sur Netflix. Elle se regarde assez rapidement avec 10 épisodes de 1 heure chacun à peu près. C'est l'histoire d'Alex, une jeune femme maman d'une petite fille Maddy et qui subit des violences conjugales psychologiques. La série suit le quotidien de la jeune maman qui décide de quitter son mari violent et essaie de s'en sortir entre situation professionnelle précaire, entourage familial difficile et l'éducation de sa fille. J'ai beaucoup aimé cette série car elle montre un autre angle de violence conjugale, les dispositifs pour s'en sortir et donne un beau message d'espoir. Je vous la conseille.
Continuons avec les bons plans. Je vous propose une suggestion de l'info jeune de Goron. Donc ma collègue Nathalie souhaitait vous faire part de la semaine de l'orientation qui aura lieu ce mois-ci, les 24, 25, 26 et 27 janvier. Donc d'abord, la semaine de l'orientation, c'est des interventions dans les collèges de Landivy, Goron et Ambrières, les 24, 25 et 27, avec la présence de l'Orientibus dans les collèges. Donc, l'Orientibus, déjà, c'est un véhicule équipé de tablettes numériques, de casques de réalité virtuelle et d'autres outils multimédia plutôt innovants qui proposent de découvrir des métiers et des voies de formation sous forme assez ludique. Il y aura aussi des ateliers de l'Info Jeune, notamment pour découvrir la documentation actualisée, riche et détaillée dont je vous ai parlé sur les métiers et les formations. Également des ateliers CV, lettres de motivation, recherche de stage, donc tout ça en présence chambres des métiers, de l'industrie et de l'artisanat, de l'agriculture et de commerce, et également des psychologues de l'éducation nationale qu'on appelle encore assez communément les conseillers d'orientation. Il y aura également une journée dédiée qui sera la journée de l'orientation, donc le 26. La présence toujours de l'Orientibus qui sera au parking de la piscine de 10h à 16h et à la salle Omnisport, la journée de l'orientation continue avec un salon à la salle Omnisport en présence du coup de l'Info Jeune. J'espère que vous y trouverez votre compte à toutes celles et ceux qui habitent dans ou près du bocage mayennais, dans le nord de la Mayenne. Il y aura également le 5 février une journée d'information sur le babysitting, le BAFA et le BNSSA de 10h à midi, donc une matinée d'information. À Goron également, à l'Info Jeune. Je vous laisse sur ces bons plans en espérant que ça vous aidera dans vos démarches. Et puis, je ne pourrais pas terminer cette émission sans avoir une pensée pour Laurence, dont la voix et les bons conseils ont rythmé cette émission pendant plusieurs années. Donc, je voulais la remercier. Merci à toutes d'avoir participé à cette première émission de l'année 2022 de l'Instant Jeune. On se retrouve le 8 février pour une nouvelle heure ensemble. Et alors, à tout bientôt, mais d'ici là, portez-vous bien. Au revoir.
Au revoir.